Petrus Borel, l'obélisque de Louxor, pamphlet, 1836. N'était-ce donc pas assez de détruire et de laisser détruire dans Paris, comme dans toute la France, les monuments que nous ont légués nos ancêtres? N'était-ce donc pas assez d'avoir laissé abattre l'église Saint-Côme et Saint-Damien et la chapelle du collège de Cluny? N'était-ce donc pas assez d'avoir laissé s'établir un mauvais lieu dans Saint-Benoît, d'avoir promis au Marteau le collège de Montaigu, d'avoir soupiré après la démolition de la Sainte-Chapelle de Vincennes, d'avoir fait des jardinets et des rigoles en travers de la majestueuse composition de Le Nôtre, et d'avoir aptassé les Tuileries? N'était-ce donc pas assez d'avoir livré honteusement Bagatelle, et d'avoir fait du château de Saint-Germain, au nom de la liberté régnante, un cachot? N'était-ce donc pas assez d'avoir rasé le manoir de Saint-le-Taverny et d'en avoir vendu les pierres tachées de sang à qui en a voulu? N'était-ce donc pas assez de tous ces attentats? Fallait-il encore que la dévastation étendît ses ravages jusqu'aux rives du Nil? Le devoir de l'homme est de s'opposer, par toutes les ressources de son génie, à l'anéantissement de ses travaux, de contrebalancer, de retarder, de suspendre les opérations de la nature qui ne s'est donné l'existence à de nouveaux êtres qu'aux dépens de ceux qui les ont précédés. La loi de l'homme est conservation, la loi du temps est destruction. L'homme et le temps doivent donc être en lutte constante. Malheureusement, le premier fait souvent abnégation de sa soumission pour aider l'autre dans la sienne, et comme lui s'arme d'une faux et d'une épée. Et une fois entré dans cette voie, l'homme devient plus redoutable que le temps, car les détériorations de celui-ci sont lentes. Rien ne le hâte, il a l'éternité devant lui. Qu'on n'accuse pas les vandales et l'ignorance de destruction. Les vandales ne font pas la guerre aux monuments. L'ignorance est respectueuse. C'est au nom de la science et du progrès que la plupart de ces crimes sont consommés. C'est la science et non point l'ignorance qui dit « Ceci est gothique, ceci est barbare et renversé ». C'est la science qui parcourt l'univers, une pioche ou une hache à la main, qui va spolier Thèbes de ses ruines imposantes, qui depuis tant de siècles faisaient l'admiration du voyageur, dont elles élevaient l'âme et élargissaient l'esprit par la méditation. C'est la science qui va ravageant les nécropoles de la Thébaïde, démolissant les hypogées, effondrant les sépulcres, criblant la poussière des tombeaux. C'est la science qui n'arrêtera ses profanations que lorsqu'elle aura nivelé au sable des déserts les berceaux des civilisations primordiales. C'est la science qui a dépouillé et qui dépouille chaque jour Athènes de ses débris magnifiques, qui lui arrache ses bas-reliefs et ses métopes, qui lui dérobe ses statues, qui emballe et expédie ses colonnes et ses portiques pour la terre du négoce, pour l'Angleterre, où ils vont s'engloutir dans les bosquets biscornus de quelques raffineurs enrichis. C'est la science qui ne tardera pas à dépouiller l'Inde de ses monuments de la gloire moghole, qui ne tardera pas à dépecer le mausolée du Tanj Mahal, le palais d'Akbar, le Muti Mushit, la perle des mosquées. C'est la science qui laisse dépérir les mausolées d'Akbar et d'Ullah Madoula pour s'autoriser bientôt à les démanteler et à les charrier en Europe. Mon Dieu, quelle manie de prendre et de transporter! Ne pouvez-vous laisser à chaque latitude, à chaque zone, sa gloire et ses ornements? Ne pouvez-vous donc rien contempler sur une plage lointaine sans le convoiter et sans vouloir le soustraire? Oh, je ne serais pas surpris si on venait m'annoncer un jour que les Anglais ont pris la Lune pour la mettre au musée de la Tour de Londres. Croirez-vous avoir donné beaucoup d'éclat à votre nation? croirez-vous l'avoir rehaussé quand vous aurez enfoui dans la vase de la Tamise ou dans la boue de la Seine l'œuvre de 2 ou 3 000 ans, les chefs-d'œuvre de 15 ou 20 peuples, quand vous aurez empilé dans vos carrefours et dans vos magasins Romain sur Étrusque, Égyptien sur Hindou, Italien sur Arabe, Grec sur Mexicain. Chaque chose a de valeur qu'en son lieu propre, que sur son sol natal, que sous son ciel. Il y a une corrélation, une harmonie intime entre les monuments et le pays qui les a érigés, qu'on ne saurait intervenir impunément. Il faut à la pyramide un ciel bleu, un sol chauve, l'horizontalité monotone du désert. Il faut la caravane qui passe à ses pieds. Il faut les cris d'une population éthiopienne qui se meut. Ou il faut la solitude et hurlement du chacal. Il faut au sphinx de granit les longues avenues des temples des pharaons. Il faut ou ces hordes bizarres qui s'entretuèrent à leur ombre, ou les ruines silencieuses de Karnak. Il faut aux obélisques les pylônes du temple, il faut le culte du soleil, il faut l'idolâtrie de la multitude, ou il faut le désert. Ces monuments qui versent tant de sublimes poésies sur les sables arides des Sahara, qui proclament la grandeur, la puissance, le génie des races poissées, traînés dans le sein de nos villes, deviennent mornes, muets, stupides comme elles. La belle tournure que vous aurez un sphinx dans une impasse entre un cordonnier et un estaminet. Le bel effet que celui d'un obélisque se profilant sur un hôtel garni entre un corps de garde et une marchande de tisane. Hélas, nonobstant toutes ces raisons et beaucoup d'autres, voici la France qui se met aussi de la partie pour faire la traite des monuments, et qui s'en mêle à toute outrance. Elle vient, le fait est notoire, le fait est scandaleux, d'importer un monolithe arraché aux ruines de Louxor. Pauvre France! Combien elle est heureuse maintenant qu'elle possède un obélisque! Quelle gloire! Réjouis-toi en bien longtemps, ma patrie! L'enfant qui secoue son rocher oublie ses chagrins. Puis ce hochet de granit assoupir aussi tes douleurs et verser du baume sur tes plaies. Mais si, comme à l'enfant, il te vaut des jouets, souvent aussi, comme lui, tu en désires tant tu ne sais que faire quand tu les possèdes. Pour lui trouver un emploi pendant 3 ans, que dis-je, pendant 4 années pleines, rhéteurs et raisonneurs se sont évertués. Jusqu'à messieurs de notre Sénat, qui ont agité cette haute question dans leur petite chambre. Et pendant ces 4 années, par voie et par chemin, par mont et par veau, on a vu quart des lions obséquieux, errants, lanterne en main, non pour trouver un homme, mais pour trouver où jucher ce coquet emblème des rayons du soleil. Celui-ci voulait qu'on le plaça dans la cour du Louvre, celui-là au 8 ans de l'esplanade des Invalides, celui-ci à Montmartre entre 2 moulins, celui-là sur le terre-plein du Pont-Neuf à la place de cet insipide Henri IV. Au fait, qu'est-ce que signifie un Henri IV? À la bonne heure, un obélisque, rien n'est plus spirituel. Le plus grand nombre pourtant opina en faveur de la place dite de la Concorde. Sans doute parce que là, il aura l'avantage de couper 4 façades en 8. Pour contenter tout le monde, pour ménager la chèvre et le chou, l'État, qui ne veut décevoir personne de son espérance, vient d'ordonner qu'il en soit mis partout. Et pour cela, l'État aurait, dit-on, octroyé des lettres de marque à une compagnie de sapeurs chargé de capturer et de mettre l'embargo sur tous les obélisques qu'elle pourra rencontrer. On ajoute même qu'il doit être fondé un grenier d'abondance pour en tenir en réserve et prévenir toute disette de cette denrée si nécessaire au peuple, et qu'il doit être ouvert un marché pour la vente de ce en surcroît et l'approvisionnement de la province. Toutes les quinzaines, on affichera leurs taxes périodiques avec celles du pain. Oui, je cherche à plaisanter, mais ma plaisanterie grimace, mon rire est jaune. J'ai le cœur trop navré. Et qui ne devrait l'avoir en songeant au sot emploi de l'argent destiné à la protection des arts, en songeant au gâchis qui se commet en ce moment dans le château de Versailles, en songeant aux sommes considérables dépensées pour le déménagement et l'emménagement d'une pierre, en songeant que le palais du Louvre reste là, inachevé, qu'on lui refuse un ouvrier, tandis qu'on s'occupe pendant plus de 3 mois plus de 800 Arabes, rien qu'à la fouille et au percement de la tranchée en pente douce, faite à partir du dé de ce menhir égyptien jusqu'à l'embarcadère, en songeant à l'amour faux et désordonné de quelques hommes pour les pierrailles antiques et au dédain professé solennellement pour nos antiquailles à nous. Nous devrions être si glorieux, pour lesquels nous devions être si tutélaires. Malheureux, pendant que vous épuisez le trésor par vos conquêtes de sphinx vert ou rose, pendant que vous remettez des becquets ou des empeignes à des Bacchus, à des Hermès mutilés, nos cathédrales tombent en ruine, nos châteaux se démantèlent, l'abbaye de Royaumont, le plus admirable édifice élevé par la munificence de Louis IX, qui en éleva tant d'admirables, est à demi détruite et dévastée par une blanchisserie de toile. Tout votre brillant étalage d'affection pour l'art et l'antiquité n'est qu'une impudente parade. Si vous aviez réellement quelque sentiment du bien et du beau, repousseriez-vous les Raphaël, les Rembrandt ou les Andrea del Sarto qu'on vous offre pour vos galeries? Laisseriez-vous disperser les collections de chefs-d'œuvre des maîtres et souffririez-vous que l'étranger en fît sa proie? Vous n'avez que des sentiments fins et faux. Votre cœur n'a jamais battu sous les voûtes d'un temple. Vous n'avez jamais tressailli à l'aspect d'un Murillo ou d'un Corrège. Vous n'avez jamais compris Puget. Vous le savez, ce qu'est Jean Briand, Jean Joconde ou Philibert Delorme. Vous êtes des cuistres au bord de la Seine et vous faites les prophètes, les poètes au bord du Nil. Pitié. Celui qui ne comprend pas Saint-Vendry, Blois, Chambord, Gaillon, Royaumont, Brou, celui-là ne peut comprendre Thèbes. Comment celui qui troqua, lorsqu'il n'avait encore que des trèfles à sa couronne, la Diane de Poitiers, de Jean Goujon, contre un Ajax de Dupaty, comment celui-là comprendrait-il un obélisque? Vous n'avez pas la religion des aïeux. Vous n'avez ni la religion de l'art, ni la religion de la patrie. Vous voulez simuler ce que vous n'éprouvez pas. Vous voulez paraître protecteur et jouer les mécènes. Vous affectez de la sollicitude. Et pour faire remarquer votre sollicitude affectée, vous faites des extravagances. Vous étonnez le vulgaire par des bizarreries. Peu vous importe que vos commis brisent à coups de liasses de papier les vitraux les plus magnifiques. Vous ne vous occupez pas de si mesquines affaires, où vos soins resteraient obscurs. Il vous faut des actes retentissants. Il vous faut attirer les regards de la foule et lui extirper son admiration. Vous savez très bien que ce n'est pas la sage et le beau qui l'ébahit. Vous voulez l'ébahir. Vous agissez pour cela à merveille. Qu'on amène ici un superbe cheval arabe, la plus belle créature de Dieu, le plus bel être. Nul ne détournera seulement la tête pour le voir. Mais qu'on amène une girafe, ridicule animal, la multitude se lèvera aussitôt, accourra en masse sur son passage, et son entrée sera un triomphe. Qu'on apporte une œuvre de Michel-Ange, Qui s'en occupera, qui se détournera pour la voir? Mais qu'on apporte un obélisque, la multitude se ruera alentour. Un obélisque, c'est une girafe de pierre. Votre obélisque aura beaucoup de succès. Quelques 100 000 niais feront « Oh !» en l'apercevant pour la première fois. Quelques centaines de maraîchers de la banlieue, venant vendre leurs légumes, s'arrêteront devant bouche béante et demanderont ce que c'est que ce machin orné de canards et zigzag. On se gardera bien de leur répondre en français. C'est une broche de pierre. Non, avec emphase, on leur dira en grec, c'est un obélisque monolithe. Quelle bonne chose que le grec pour boursoufler les platitudes et pour obscurcir ce qui est clair. Jardi Dieu, sauf votre respect, répliqueront ces braves gens. Sprenions ça pour une cheminée de pompe à feu. Goguenardise la part. Que trouverez-vous de si beau à un obélisque? Comme art, comme exécution, comme invention, comme galbe, comme effet, c'est un monument laid et nul. Voulez-vous donner une idée avantageuse des Égyptiens et de leur génie? Pourquoi donc alors choisir entre leurs œuvres une borne? Car vous savez tous aussi bien que moi, et mieux que moi, car vous êtes des savants, qu'un obélisque n'était point un monument, mais une grande borne placée vis-à-vis des temples ou des palais, pour y inscrire tout du long les noms et prénoms des fondateurs, des agrandisseurs et des restaurateurs de ces palais ou de ces temples. Voulez-vous prouver jusqu'à quel point les Égyptiens étaient habiles à transporter et à mettre debout d'énormes blocs? Bon Dieu, qui vous conteste l'habileté des Égyptiens? Nous savons parfaitement qu'ils étaient très adroits. Voulez-vous nous prouver que sur ce point vous êtes aussi fort qu'eux et que vous pouvez, comme eux, dresser sans effort de lourdes masses? Bon Dieu, mais qui vous conteste votre habileté? Nous savons parfaitement que vous êtes aussi adroit que des Égyptiens. Nous savons parfaitement que votre machine à vapeur aurait fait danser l'obélisque si elle avait eu de la dentition. Les Romains, qui ne surent faire autre chose que piller et imiter, transportèrent en Italie une vingtaine d'obélisques. On a, comme vous l'avons vu, en transporté ici indéfiniment. Oh, cela fait très bien d'imiter Auguste et Constance. Cela donne une tournure moins triviale. Sixquin fit redresser l'obélisque de Caligula. Vite, il faut redresser aussi un obélisque. Mais comment redresser un obélisque quand on n'en a point? Ben, la chose est simple. On va en chercher. Mais Métali est très aimable. Il en donne à qui veut. Toutefois, vous n'en avez encore qu'un seul. Et Rome, en ce moment, en possède juste un demi-quarteron. Vous êtes loin de compte. Tenez-vous opiniâtrement à compléter le demi-quarteron. Sérieusement, affectionnez-vous les obélisques? Car pour moi, je ne puis vous le dissimuler, j'ai le malheur de préférer long comme le bras de flèche de Strasbourg à 200 zones de monolithes. Suivez mon conseil. Faites-en vous-même. Qui vous empêche d'en faire? Il faudrait avoir une très insultante opinion de nos artisans pour les croire incapables d'un pareil travail. Allez en Provence, dans le diocèse de Fréjus, où le porphyre abonde. Allez Stérel et à Roquebrune. En allant de Roquebrune au Buy, vous rencontrerez une montagne qui en contient des masses de plus de 60 pieds de haut, sur une largeur considérable. Vous pourrez y tailler, comme les Romains le firent autrefois, des colonnes semblables à celles qu'ils tiraient de la Haute Égypte. Vous pourrez y fabriquer à foison des obélisques, et certainement des obélisques de porphyre français, travaillés par des artistes français. pendant tout autant que des obélisques de granit et d'Égypte. Un roi haut sur le bonnet, vont à ce mauvais propos s'écrier les savants. Imbécile, vont-ils me dire, les obélisques n'ont pas une valeur intrinsèque. Ils n'ont de valeur seulement que par les souvenirs qu'ils renferment, les souvenirs dont ils regorgent. Songe donc, idiot, que l'obélisque de Louxor, par exemple, rappelle Ramsès ou Ramsès III. Mais Chemal n'a point encore fixé l'orthographe de ce nom. D'ailleurs, il n'y a d'orthographe que pour les noms impropres. Ramsès III, 15e roi de la 18e dynastie. Comment, tu ne t'adonneris pas au souvenir de Ramsès ou Ramsès, le même selon les uns, tout autre selon les autres, que Sésostris, que le grand Sésostris? Cruel insensible, mais comment tu ne fonds pas en larmes à la mémoire de Ramsès III, 15e roi de la 18e dynastie? Mais comment ton cœur ne palpite pas son seul nom? Tiens, que voici écrit sur l'estomac de ces huit singes cynocéphales? Hélas, messieurs, je vous en demande bien pardon, mais je ne puis sympathiser avec vous à ce point. Mon cœur n'est pas assez vaste, ni assez élastique, pour étendre aussi loin son amour et ses affections. Votre Ramsès ou Ramsès III, 15e roi de la 18e dynastie, était sans doute un fort bonhomme. Il ne faut jamais mal parler des absents. Mais pour moi, sincèrement, lui et sa grande borne sont fort peu de choses. Ne pensez pas d'ailleurs, messieurs, que la France, plus que moi, raffole de votre pharaon, ni qu'elle eût jamais la pensée de lui élever un autel. Et tenez-vous pour certain que ce n'est pas le souvenir de votre Ramsès III, 15e roi de la 18e dynastie, qui viendra l'assaillir lorsqu'elle jettera les yeux sur cette borne plantée au milieu d'une place encore fumante du sang de Louis XVI.